Aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur France Culture, violence sexiste. Et maintenant, depuis le 5 octobre dernier, les premières révélations sur l'affaire Weinstein, les initiatives se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les violences sexuelles par le biais des hashtags Balance ton porc et MeToo. Cette parole veut désormais prendre la rue et montrer qu'elle ne se manifeste pas seulement sur les réseaux sociaux. Nous en parlerons avec vous, Caroline Eliachev. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et vous avez notamment publié Le temps des victimes chez Albin Michel avec Daniel Soulez-Larivière. Mais tout d'abord, je vous propose d'entendre un extrait d'une interview d'Asia Argenteau. L'actrice raconte son premier rendez-vous avec Harvey Weinstein.
Il est allé dans la salle de bain et il est sorti en peignoir avec une lotion à la main. Maintenant, on sait que c'était ça, son modus operandi. Mais à l'époque, je n'en savais rien. Pour moi, c'était juste la scène la plus absurde que j'ai jamais vue. Je ne savais pas s'il plaisantait. J'étais effrayée. Et il était là, comme un ours. Je lui ai dit, tu plaisantes ? Je ne suis pas ce que tu crois. Il m'a dit, non, je veux juste un massage pour me détendre. Je n'ai pas réalisé que là, j'allais me faire violer. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pourrait me faire ça. Il était la quintessence du pouvoir, le pouvoir physique. Il est gros, effrayant. Et il était l'un des hommes les plus puissants au monde. Les gens me disent, tu l'as pas dénoncé parce que tu avais peur pour ton film. Oui, j'avais peur pour le film que j'avais fait. À l'époque, ce film, c'était tout pour moi. Mon père me disait, avec ce film, Asia, tu vas gagner un Oscar.
J'ai choisi cet extrait, Caroline Eliachev, parce que je l'ai trouvé très éclairant. Il représentait la quintessence du pouvoir, dit Asia Argenteau. Au sujet donc d'Harvey Weinstein, qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'elle a raison. Pour elle, à ce moment-là, il était la quintessence du pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur ce qui était pour elle le plus important, à savoir son film. Elle décrit très très bien une situation quand même extrême, c'est-à-dire que ce producteur est un surpuissant qui abuse de son pouvoir. Et des surpuissants ou des puissants qui abusent de leur pouvoir, il y en a à peu près partout. Des surpuissants, il y en a quelques-uns. Mais c'est assez. En plus, elle le raconte à distance, c'est-à-dire elle a pris de la distance par rapport à ça. Elle n'est pas dans l'émotion, elle est plutôt dans l'analyse. C'est intéressant comme la façon dont elle en parle.
Et elle raconte aussi pourquoi elle ne s'est pas plainte à l'époque, pourquoi il lui paraissait complètement impensable de le faire.
Ben oui, je veux dire, elle en a tiré des bénéfices et elle ne le nie pas. Voilà.
Ce qu'elle ne nie pas, surtout dans cet extrait que l'on vient d'entendre, c'est qu'en fait, il lui paraissait impossible de libérer la parole. Aujourd'hui, on voit cette parole se libérer. Il reste beaucoup de choses à expliquer. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ce matin, Caroline Eliachev, sur le comportement de ces hommes. Comment expliquer qu'un homme comme Harvey Weinstein ait agi comme il a agi? Est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue de la psychiatre, de la psychanalyste que vous êtes, comment finalement on analyse la perversion, s'il s'agit d'une perversion selon vous ?
Alors premièrement, je ne peux pas porter de diagnostic sur cette personne que je n'ai pas reçue. Et il faut aussi savoir que ces personnes ne viennent pas nous voir, ne se considèrent absolument pas comme malades, sauf que maintenant, ce monsieur est dans une clinique qui soigne les addictions sexuelles. Mais je ne pense pas que dans le cas particulier, on puisse parler d'addiction sexuelle.
Pourquoi ?
Je crois que ce n'est pas ça qu'on appelle une addiction sexuelle. Une addiction sexuelle, c'est quelqu'un, enfin il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui et qui ne sont pas forcément d'ailleurs des violeurs. Ceux-là peuvent venir effectivement se soigner. Je ne pense pas que M. Weinstein considère qu'il est malade, sauf que maintenant on lui dit qu'il est malade, ce qui est un petit peu différent.
Mais alors qu'est-ce qu'il va faire dans une clinique ?
Il va se cacher.
Et donc, tout traitement serait vain pour tenter, en quelque
Écoutez,
sorte...
Je pense que la leçon... Bon, d'abord, la justice va passer. Et la leçon qu'il est en train de recevoir devrait le freiner dans ses ardeurs, j'imagine. Bon, enfin, encore une fois, j'en sais rien. Laissons aussi la justice passer et n'en rajoutons pas sur cette personne-là.
Bon, au-delà de ce cas particulier qui n'est qu'un cas et qui n'est pas finalement un cas qui résume la totalité des histoires que l'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou au bureau, puisque la parole se libère, puisque l'on voit donc qu'il y a effectivement beaucoup de paroles libérées, d'histoires racontées, l'oreille de la psychanalyste, qu'entend-elle dans ces histoires-là? Est-ce qu'elle entend finalement l'histoire d'hommes qui se croient tout puissant ou bien d'autres comportements?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories d'hommes dans ces affaires. Il y a des hommes qui ont un pouvoir, pas forcément un énorme pouvoir, un grand pouvoir ou un petit pouvoir, qui sont des personnes qui abusent de ce pouvoir. Ce qui signifie, bien entendu, que tous les hommes qui ont du pouvoir n'en abusent pas. Mais il y a ceux qui ont effectivement un pouvoir sur les femmes, et sur les hommes aussi d'ailleurs, dont on parle peu, hein, les hommes abusés, et ceux-là abusent de leur pouvoir. Et puis, il y a toute une catégorie d'hommes qui n'ont plus de pouvoir. Ils n'en ont plus du tout. Ils s'estiment, du fait de la plus grande égalité entre les hommes et les femmes, ils estiment qu'ils sont totalement dévirilisés, ou plutôt dévirilisés par rapport à des critères de virilité qui ont, je crois, pas mal changé. Donc voilà, et je pense qu'en face de ça, vous avez des femmes qui, pour des raisons qui leur sont tout à fait personnelles et sur lesquelles je ne porterai aucun jugement, ont intégré le fait que les hommes puissent avoir du pouvoir sur elles et l'acceptent, encore une fois pour des raisons que je n'ai pas à juger, et d'autres qui ne l'acceptent plus. C'est-à-dire que, voilà, en miroir, vous avez toute une catégorie de femmes qui considèrent qu'il n'y a aucune raison de laisser des hommes exercer un pouvoir sur elles.
Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces hommes qui se croient omnipotents, qui exercent des contraintes terribles sur des femmes? Est-ce qu'il y a l'idée qu'ils ne peuvent être qu'irrésistibles? Est-ce qu'il y a l'idée finalement que seul leur désir compte?
Oui, je crois qu'ils sont totalement égocentriques, que les femmes ne sont plus, ne sont plus des personnes humaines, mais qu'elles peuvent être manipulées, et ils exercent sans vergogne leur pouvoir, ce qui est quand même une certaine forme d'impuissance.
Et alors, justement, pour ces hommes qui, selon vous, témoignent au travers des agressions qu'ils perpètrent, de leur absence de pouvoir ou de la sensation qu'on leur ôte une partie de leur pouvoir, eux, que tentent-ils de faire au travers de ces gestes?
Que tentent-ils de faire? Je crois qu'il faudrait leur demander, parce que je ne sais pas très bien répondre à votre question. Je pense qu'ils cherchent à satisfaire, d'une part, l'exercice du pouvoir. Je pense que la jouissance, c'est d'exercer du pouvoir sur les femmes et sur les hommes. Je crois que vraiment, en ce moment, on parle uniquement des femmes. On oublie beaucoup que les hommes aussi sont victimes d'autres hommes ou d'autres femmes, parce que quand les femmes ont du pouvoir, certaines d'entre elles abusent elles aussi de leur pouvoir. La parole des hommes, comme vous le voyez, est très loin de s'être libérée.
Lorsque vous entendez des enfants, puisque votre métier, Caroline Eliachev, c'est notamment de recevoir des enfants, est-ce que ces stéréotypes qui peuvent conduire aux violences sexistes, est-ce qu'ils sont présents déjà chez de jeunes enfants? Comment ça se passe?
Oui, alors ça c'est un problème très important, parce que je pense que toutes ces choses-là commencent dans la petite enfance. On a pensé que la mixité entre les garçons et les filles allait arranger les choses. Personnellement, je pense que la mixité est une très bonne chose, mais il ne suffit pas de mettre des petits garçons et des petites filles ensemble pour que ça se passe bien. Or, on les laisse sans intervenir là-dessus, et je pense que à l'école ou ailleurs, les adultes ont à intervenir pour que les garçons et les filles commencent à se respecter. Encore une fois, réciproquement, parce que les filles peuvent être également des pestes avec les garçons.
Mais alors, justement, parce que on a dit, au travers donc de tous ces débats qui ont eu lieu après la libération de la parole, qu'il manquait un hashtag qui était « éduque ton fils ».
Ah oui. effectivement, l'éducation... Alors, il y a plusieurs choses dans l'éducation. Il y a d'abord qui éduque, la mère seule, la mère ou le père. Et dans l'éducation, il y a ce que l'on dit, il y a ce que l'on fait. Si le discours n'est pas synchrone avec ce que les enfants voient, ils voient que les parents mentent. Autrement dit, ce qu'ils voient à la maison, la façon dont leur père traite leur mère et réciproquement, est à mon avis au moins, sinon plus important que ce qu'on leur dit. Il y a aussi autre chose qui me frappe très souvent, c'est à quel point certaines femmes se laissent maltraiter par leurs enfants garçons. On voit aujourd'hui des jeunes garçons qui parlent à leur mère en les insultant, etc., avec des femmes qui l'acceptent.
Ou alors qui ne savent pas quoi faire face à la violence de leurs enfants.
Oui, ou qui ne savent pas quoi faire, mais qui quand même l'acceptent. Et vous avez aussi, dans les familles, encore de très grandes différences dans la façon dont les garçons et les filles sont traités par leurs parents.
Et alors, justement, lorsqu'on est face à la violence d'un enfant, parce qu'un enfant, ça peut être très violent, même lorsque c'est jeune, Caroline Eliachef, et lorsqu'on est face à la violence d'un enfant, lorsque c'est un petit garçon qui rudoie sa mère, qu'est-ce que ça dit sur cet enfant lorsqu'il deviendra grand, lorsqu'il deviendra un homme ?
Pas de prédiction. Hein, on ne sait pas parce qu'un enfant entre 3 et 10 ans va insulter sa mère qu'il va devenir un prédateur sexuel. Non. Mais effectivement, ça passe quand même énormément par l'éducation et aussi par ce qu'on leur montre, ce que nous leur montrons.
On a l'impression que l'une des conséquences de cette libération de la parole, ça a été la libération de la mémoire. C'est quelque chose que j'ai vécu autour de moi. Beaucoup de filles m'ont dit qu'effectivement, elles se souvenaient d'agressions dont elles avaient été la victime, que toute cette affaire finalement permettait de remémorer un certain nombre d'épisodes où les hommes les avaient agressés, harcelés, et dont elles ne se souvenaient plus. Comment vous expliquez cela ?
Eh bien, parce que le refoulement est quelque chose qui existe, c'est-à-dire qu'on met au fond de sa mémoire des choses dont on ne veut pas, auxquelles on ne veut pas penser tous les matins, et que qui d'ailleurs ne sont pas forcément toutes traumatiques. Hein. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. Hein. Tout n'est pas dramatique, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai que, à la faveur de ce qui est en train de se passer, chaque femme, chaque homme aussi se dit et moi, est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose ? Et quand on entend qu'une telle ou une telle a été agressée à 8 ans, 12 ans et 35 ans, on se dit, ben et moi, qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans, 12 ans et 35 ans ? Et il arrive que l'on se souvienne d'épisodes, encore une fois, auxquels on ne pensait pas tous les matins et qui n'étaient pas n'ont pas forcément joué un rôle capital. On se souvient aussi, parfois, d'épisodes où on s'est soi-même mis en danger et où le danger n'est pas arrivé. Autrement dit, où des hommes ont exercé une protection. Alors que, on avait pu, en tant que jeune fille, se mettre dans des situations un peu douteuses.
Mais alors, comment expliquer la mémoire est refoulée et comment expliquer que celle-ci revienne maintenant ? Est-ce que ça veut dire qu'on a affaire à une découverte de pans entiers du passé ? Est-ce que il faut là aussi envisager, lorsqu'on découvre cela, un travail psychanalytique ? Vous levez les yeux au ciel, c'est votre métier.
Non, heureusement. Non, écoutez, je crois que on n'est pas obligé. Je voudrais le dire à toutes celles qui n'ont pas libéré leur parole, c'est que c'est pas une obligation. Premièrement. Deuxièmement, que celles qui cherchent dans leur mémoire ce qui leur est arrivé et qui leur est rien arrivé, elles sont aussi dans la norme. Maintenant, la norme n'est pas d'avoir été agressée quand on était petit. Cela dit, lorsque nous voyons des personnes qui viennent nous consulter, il est assez rare, effectivement, que un garçon ou une fille, d'ailleurs, n'ait pas, dans son enfance, subi quelque chose. Mais encore une fois, je trouve que insister sur l'idée que c'est traumatique, que c'est dramatique, etc., n'est pas une idée juste. Ça peut l'être, mais tout existe, c'est-à-dire il y a des nuances, et ça n'est pas parce que on a été agressé quand on était jeune que toute sa vie on va avoir à en subir les conséquences. Alors, parfois oui, je fais une grande différence entre le viol et l'agression, bien entendu.
Et il y a un cas qui remonte parfois à la surface et qui semble particulièrement douloureux, même si, bien entendu, et on va pas hiérarchiser les souffrances, Caroline Eliachev, c'est le cas des viols intrafamiliaux qui semblent être particulièrement nombreux.
Les viols intrafamiliaux sont les plus fréquents, et surtout, et je voudrais le dire ici, ce sont les viols sur mineurs qui sont les plus fréquents. Garçons et filles, surtout les filles, mais également les garçons, et que effectivement, ces viols sur mineurs sont très majoritairement intrafamiliaux, c'est-à-dire le père, le beau-père, le grand-père, l'oncle, le cousin.
Et là, justement, lorsqu'on voit ces cas d'inceste, ces cas donc de viol à l'intérieur de la famille, on a affaire à des cas encore autres, même s'il s'agit toujours de domination et de pouvoir. Ces cas monstrueux, finalement, comment vous réussissez à les expliquer, si vous avez une explication?
Alors, vous dites ces cas monstrueux, ils sont aujourd'hui considérés comme monstrueux, ils ne l'étaient pas. Une grande tolérance, il y avait une grande tolérance dans la société et dans les familles pour ces cas d'inceste intrafamiliaux qui d'ailleurs ne sortaient pas de la famille.
C'est encore plus compliqué de les faire sortir de la famille.
Oui, aujourd'hui c'est considéré effectivement, enfin la pédophilie et l'inceste sont considérés comme ce qui peut arriver de pire à un garçon ou à une fille. Ça a changé. C'était pas le cas. Alors oui, c'est compliqué de les faire sortir parce qu'effectivement, lorsque une plainte est déposée, ça fait en général exploser la famille. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce sont les cas qui, lorsqu'il y a une plainte, sont les plus élucidés.
Alors que bien souvent, donc la plainte, lorsqu'elle est là aussi déposée, puisqu'on a entendu tout à l'heure Asia Argento, qui est actrice, donc qui a à l'époque la possibilité de le faire peut-être plus que quelqu'un qui serait en plus dans une situation d'infériorité sociale, eh bien la plainte est difficile à déposer.
Oui, la plainte est difficile à déposer. Et ce qu'il faut dire aussi pour les mineurs, pour les jeunes, c'est que ce sont aussi les services de protection de l'enfance qui agissent, qui peuvent agir pour que la plainte soit déposée. Mais effectivement, c'est un petit peu compliqué.
Caroline Eliachev, vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. On vous retrouve aux environs de 8h20 pour débuter cette journée spéciale sur France Culture contre les violences sexistes et pour imaginer ce que l'on peut faire. Après, vous serez rejointe par Elliot Lepers, qui est un activiste sur Internet qui s'est très tôt impliqué dans des mouvements féministes de dénonciation des violences sexistes. Et puis, on entendra également les reportages de Maïwenn Guizhou qui est allée auprès de ces femmes qui ont été actives sur le hashtag Balance ton port.